Zéro, brassage radio. Cela fait un mois que la droite s'est maintenue à la mairie de Toulouse, avec celui dont on ne veut plus prononcer le nom, l'autre JLM, comme certains disent. La gueule de bois s'estompe pour faire place à la colère et à la lutte. Pas facile, faut l'avouer, avec tout ce qu'il se passe à Toulouse, hors Toulouse, localement, nationalement et mondialement. Mais pas de résignation ici, et la lutte et le rapport de force continuent plus que jamais. Et notamment en termes de santé communautaire et d'hébergement, que ce soit pour les personnes et les familles à la rue, les réfugiés, les personnes migrantes et les mineurs isolés, et les personnes malades et ou en situation de handicap. Les enjeux sont plus que jamais d'actualité. C'est pourquoi on reçoit aujourd'hui la Case de Santé, qui est un centre de santé communautaire toulousain, situé à Arnaud-Bernard et existant depuis 2006, avec un fonctionnement propre à lui, dont on va parler ce soir. Et dans ce centre de santé, un collectif hébergement a vu le jour pour lutter pour que les personnes malades et en situation de handicap et ou avec des pathologies lourdes puissent avoir des hébergements dignes et adaptés à leur maladie, pour que les familles avec un ou des enfants en situation de handicap et logés à l'hôtel, par exemple, puissent vivre dignement et en toute sécurité. Ce plateau sera donc l'occasion d'échanger sur ces différents enjeux, de parler de ce qui les traverse et des perspectives de lutte à venir, que ce soit pour la case de santé comme pour le collectif. Plus que jamais, soyons solidaires et ensemble pour les années à venir. Bonne écoute. Alors, rebonjour. Hein. Donc là, je suis accompagnée de 4 personnes, donc 2 personnes de la case de santé et 2 personnes du collectif hébergement. Et du coup, on a l'habitude à Bras Zéro de commencer par un petit tour de présentation. Et donc là, voilà, je vous invite à vous présenter et nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites soit à la case de santé ou au collectif. Alors.
Bonjour, donc je m'appelle Faïza, je suis travailleuse sociale à la case de santé et j'y travaille depuis un peu plus de 10 ans. Et j'ai personnellement été usagère avant d'intégrer l'équipe de la case de santé. Donc, je suis aussi, j'ai intégré l'équipe par cette petite passerelle des collectifs. Je faisais partie du collectif Étrangers Malades à l'époque, autant que personne concernée. Et donc, j'ai fait beaucoup de travail pair avant d'intégrer l'équipe. Et j'y travaille depuis plusieurs années et aujourd'hui, voilà, je suis toujours là. Et donc, je viens pour justement accompagner les personnes concernées pour la question de l'hébergement aujourd'hui.
Moi, je suis Rémi, je suis travailleur social depuis beaucoup moins longtemps à la Case de Santé, depuis à peu près un an. Et du coup, j'anime avec les collègues et le collectif hébergement. Et je vais laisser les personnes se présenter et en parler.
Bonjour, je suis Mohamed Diaby. Je suis membre de la collectif.
Bonjour, je m'appelle Nano. Je suis membre du collectif hébergement à la case de santé.
Merci. Alors, on va commencer plutôt par la case de santé. Alors, c'est quoi exactement la case de santé ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu son histoire ?
Alors, il y a à peu près 20 ans, un centre de santé communautaire a vu le jour dans un quartier à l'époque populaire. C'était le quartier d'Arnaud-Bernard, où les inégalités sociales de santé étaient enfin en tout cas un sujet dans ce quartier-là. Ça a commencé par un médecin qui a eu cette idée innovante, ce projet innovant d'ouvrir un centre de santé communautaire pour faire de la santé globale. Il n'était pas seul, il était accompagné d'un travailleur social aussi qui était, on appelait ça, promoteur de la santé, où l'idée fondatrice était de toucher, en tout cas de soigner, tout en touchant tous les déterminants sociaux de santé, donc la question du logement, la question des conditions de travail, la question de l'environnement. Donc, on ne peut pas soigner une personne sans prendre en compte tous ces éléments-là. Et l'idée aussi principale, c'est de mettre la personne au centre de cette prise en charge. C'est-à-dire, c'est les personnes qui sont sachantes, qui aussi vont être dans une démarche d'acteurs et d'actrices de leur santé. Et donc, de les mettre au centre de cette prise en charge. Donc, ça a commencé avec quelques salariés et au fil du temps, l'équipe s'est développée avec aussi développements de pas mal de questions et aussi de collectifs, de programmes. On a eu pas mal de programmes à la case de santé historique, comme le programme autour de la question des Chibani, les personnes âgés qui ont travaillé en France et qui ont perdu leurs droits au fil du temps quand ils se sont retrouvés retraités. Il y avait la question aussi qui était très connue par rapport à l'époque, c'était la question du droit au séjour pour soins, qui est toujours un programme, un peu repéré la case de santé par rapport à ce programme de la question du droit au séjour pour raison médicale. Et aussi la question de la santé des femmes. Il y avait à l'époque toute la question autour de l'IVG et toutes les questions autour des personnes sortant de prison, des personnes en situation de grande précarité et comment des personnes venant de tous bords peuvent accéder à un système de santé accessible, inconditionnel et aussi comment ces personnes deviennent actives et comment ils deviennent acteurs, actrices de leur santé. Donc aujourd'hui, on est au même endroit, sauf que le quartier s'est gentrifié, donc ça, on n'est plus sur les mêmes réalités de l'époque, d'il y a 20 ans. On est une équipe un peu plus, on est nombreux, on est presque 27 salariés, et on est deux services, dans la même équipe. Les choses ont évolué à travers le temps. Et on a vu le nombre de personnes qui, justement, sont exclues de ce système de santé, n'ont pas accès à un médecin traitant, à un travailleur social, un psychologue, à une sage-femme, une infirmière, un médiateur en santé. C'est ça l'équipe de la case de santé. Donc, on a décidé d'arrêter de recevoir de nouvelles personnes pour faire du suivi. Donc, on n'a plus de nouveaux patients, patientes, usagères. Sauf que pour pallier justement du manquement et des personnes qui n'ont pas accès à ce service-là, on a créé ce qu'on appelle le pôle santé droit à la case de santé. Donc, on est deux pôles dans la même équipe. Et le pôle santé droit aussi, il est constitué de médecins, de travailleurs sociaux. On est deux médecins et trois travailleurs sociaux, dont un coordinateur. Et on a aussi accès à un psychologue et médiation santé. Et actuellement, à travers l'histoire, je pense que vous connaissez la case de santé a vécu des péripéties à travers les années pour justement déjà reconnaître le projet de la case de santé et une reconnaissance dans le système, dans le paysage. Donc, il y avait des problèmes avec des financements. À chaque fois, on se mettait en grève. Il y avait historiquement plusieurs épisodes où on se mettait en grève, mobilisation avec nos usagères qui ont beaucoup participé à justement le maintien de la case de santé ouverte. où ils trouvaient que c'était indispensable d'avoir accès à un médecin, d'avoir accès à un interprète, avoir accès à un espace collectif où on pouvait défendre le droit au séjour pour soins, défendre l'hébergement, défendre la santé des femmes, défendre la santé au travail, la PMA, etc. Donc, c'est les usagers et usagères qui ont pu permettre justement le maintien de la case de santé ouverte. C'est grâce à, à leur mobilisation. Et il n'y a pas si longtemps que ça aussi, on a eu des problématiques. Moi, je pense qu'il y a eu pas mal d'articles et de réunions à la case de santé pour justement visibiliser un peu les problématiques. Et à chaque fois, on arrive un peu à dépasser où ce n'est pas complètement une victoire. Des fois, on a des demi-victoires, etc.
Donc, ça, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission.
Voilà. Je ne sais pas si tu penses.
Non, mais parce qu'on est, cinq dans le studio, donc du coup, c'est pour ça qu'on se demande est-ce que ça en complète. Ça voilà, c'est pour ça que ça, vous entendez des voix peut-être derrière. Mais du coup, plus largement, ça t'a un peu dit, hein, mais déjà, mais on se disait, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est que la santé communautaire pour la case de santé, mais plus généralement, c'est quoi la santé communautaire? Un peu pour les auditeurs, auditrices qui peut-être ne connaissent pas ça.
Alors, on entend souvent tout ce qu'on appelle l'Organisation mondiale de la santé, la Charte d'Ottawa, enfin, ce qu'on entendait, ou ce qu'on, enfin, que la santé, c'est pas simplement c'est pas simplement, comment dire, c'est un complet bien-être mental, physique, social, etc. Donc, dans cette logique, la case de santé a créé ce projet. Enfin, on appelle toujours un projet parce que ça se développe au fil du temps. Et l'idée fondatrice, c'est que les personnes s'organisent pour une question commune. C'est ça, la santé communautaire. Donc, on est concerné par les inégalités sociales de santé. On sait que... on a besoin de trouver des solutions par rapport à l'hébergement, donc on s'organise en communauté concernée par la même question pour faire évoluer la question, parce qu'on n'arrive pas tout seul individuellement, donc on va le faire ensemble. C'est ça, la santé communautaire, un peu traduit de façon un peu, comment dire, plus simplifiée, si vous voulez, parce que effectivement la santé communautaire à travers en tout cas, l'histoire de la case a toujours été une question un peu floue ou tabou. La santé communautaire, de façon générale en France, y avait beaucoup de confusion entre c'est quoi la santé communautaire, ça faisait peur, alors que c'est simple. Ça existe depuis des années, que ce soit aux États-Unis ou dans des pays européens, des pays comme la Belgique, le Canada, où la santé communautaire est beaucoup plus développée, cette question. Elle a évolué beaucoup. Et en France, on commence à parler santé communautaire que depuis une vingtaine, voire un peu plus d'années. Donc, c'est toujours, ça reste une question un peu floue. Donc, c'est simple, c'est juste se mobiliser pour une question commune, comment améliorer la santé ensemble, parce qu'on est concerné par la même question. C'est à peu près ça. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas que la case de santé qui est un centre de santé communautaire. Il y a plusieurs centres qui ont vu le jour depuis 20 ans. Et on s'est constitué en réseau de centres de santé à travers la France. Il y en a un centre de santé communautaire à Échirolles, à Saint-Denis, à Marseille, en Bretagne. Il y en a une dizaine et ça continue. Il y en a un qui est un peu le bébé de la case de santé, on va dire, c'est à Bayonne. Il s'appelle Zup Santé, qui vient d'ouvrir il n'y a pas si longtemps que ça, avec des collègues qui sont partis là-bas ouvrir ce centre de santé. D'ailleurs, je vais faire un coucou s'ils m'entendent là aujourd'hui. Donc voilà, la santé communautaire se développe.
C'est super. Je sais, pour le côté... ça fait du bien d'avoir des nouvelles comme ça, où on voit qu'il y a quand même des réseaux qui se mettent en place et tout, surtout sur ces questions de santé communautaire. Vraiment, c'est... Ah ouais, je ne savais pas qu'il y avait autant de centres de santé communautaires en France, en réseau. Bon, voilà, et le petit bébé à Bayonne. Bienvenue dans le réseau. Merci. Là, peut-être que on va peut-être passer un peu au collectif, mais juste avant, avant que de vous laisser la parole, on va passer un extrait d'un journal télé de France 3 qui a suivi une manifestation de ce collectif hébergeant. C'était une manif qui avait lieu le 1er août 2025. Et du coup, voilà, c'est pas nous qui avons fait le son, vous allez reconnaître, c'est un extrait du journal télé, donc vous allez voir, ça fait vraiment JT, quoi.
Les places d'hébergement d'urgence manquent depuis des années à Toulouse. Mais face à une situation de plus en plus alarmante, un collectif d'associations, la Case de Santé, s'est rassemblé cet après-midi pour dénoncer les conséquences de ce manque de logement pour les personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies graves. Reportage de Malo Bascoul avec Thierry Villéger.
Yahya Mokhtar vit en France depuis 2 ans. Il souffre d'une forme sévère de tachycardie qui a nécessité 3 opérations au cœur. À Toulouse, il lui arrive de passer plusieurs semaines sans trouver d'hébergement.
Je me suis déjà retrouvé à la rue. Et la rue ne pardonne pas pour un jeune comme moi, dont l'état de santé peut s'aggraver, surtout avec personne pour l'aider.
C'est pas facile.
Yahya est membre d'un collectif regroupé à la Case de Santé de Toulouse, un centre médical ouvert à tous. Le groupe rassemble des personnes atteintes de pathologies lourdes ou en situation de handicap, sans solution de logement.
Avec ou sans titre de séjour, on doit pouvoir bénéficier d'une mise à l'abri. Là, ce n'est plus du tout le cas sur Toulouse. Depuis plusieurs années, il y a régulièrement une volonté de réduire les moyens, je pense d'épuiser les personnes, clairement pour que les personnes repartent. Sauf qu'en fait, on sait que les personnes ne peuvent pas et ne repartent pas.
Beaucoup ont besoin d'un traitement régulier, parfois quotidien. Mais les conditions de vie dans la rue rendent les soins presque impossibles.
Une personne psychiatrisée qui a des problèmes psychiatriques, elle peut décompenser dans la rue et du coup à se faire du mal ou faire du mal à d'autres gens. Alors que si elle avait un hébergement, elle pourrait prendre son traitement et poser moins de problèmes. Les personnes, elles demandent de la transparence pour pouvoir comprendre pourquoi elles ne sont pas prises en charge, pourquoi elles vivent avec leur enfant handicapé dans un hôtel qui n'est pas adapté. C'est toutes ces situations-là qu'on dénonce.
Chaque soir, près de 200 personnes appellent le 115 à Toulouse. Selon la Fédération des acteurs de la solidarité, plus de 90% des demandes restent non pourvues.
Alors, ce reportage, il date quand même de, comme je le disais, du 1er août 2025. Alors, avant de vous laisser la parole, de nous expliquer ce que c'est que le collectif, un peu nous raconter tout ça, est-ce que vous savez, ou vous du collectif, ou vous de la Case de Santé, s'il y a eu la situation, elle a évolué liée à l'hébergement à Toulouse depuis ce reportage? Parce que vous, à la fin, je ne sais pas si vous avez, ils donnent des chiffres. Et du coup, voilà, on se demandait en préparant l'émission si y avait, vous saviez s'il y avait une évolution ou pas là-dessus.
Depuis, il n'y a pas eu d'évolution. Il n'y a pas eu d'évolution. À chaque fois qu'on appelle les 115, ça ne marche pas. Mmh. Vous pouvez appeler beaucoup de tentatives. Tu peux faire 10, 15 tentatives sans qu'on te réponde. Et quand on te répond, on te dit... franchement, il n'y a pas de place, c'est monté par-ci, par-là, il faut rappeler demain encore, et demain vous rappelez, c'est comme ça, la même chose.
Ouais, tout le temps, ça.
Tout le temps, oui.
Et au niveau des chiffres, vous, peut-être la case, vous avez des chiffres
Oui, il n'y a pas de chiffres exacts, mais on est sur les mêmes statistiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... la préfecture, elle a la dette, du coup, qui gère le service d'hébergement. Elle a, du coup, sous-traité à l'UCRM un programme d'aller vers dans l'objectif de vider les hôtels, parce que c'est ça, quand même, l'objectif de la préfecture, c'est de vider les hôtels, c'était pour diminuer les coûts de l'État. Et du coup, on est dans une situation où on a énormément de sorties d'hôtels. Donc, pour les personnes qui ont des droits, ils essayent, avec l'UCRM, de les mettre dans un foyer temporaire, mais on n'a pas de visibilité à long terme non plus. Et pour les autres personnes qui sont sans titre de séjour ou sans droit au logement, ils vont se retrouver dans des situations de remise à la rue, même s'il y a des maladies. Donc moi, je pense que la situation elle a empiré par rapport à il y a un an. C'est-à-dire, voilà, des personnes... pendant la trêve hivernale, par exemple, on peut donner un chiffre. il n'y a eu que deux prises en charge et c'est des personnes qui ont eu... Enfin, pas de, pendant le plan grand froid, pardon. Il n'y a eu que deux prises en charge et c'était des personnes qui avaient une situation régulière. Mmh. C'est-à-dire qu'on avait une famille avec des enfants bleus dans leur voiture. Ils n'ont pas été pris en charge. Donc, on est dans une situation où, voilà, ce qui ne se voyait pas les années précédentes.
Pour compléter, Rémi, c'est que on voit de, enfin, on comprend plus les critères de, enfin, de vulnérabilité. On est face aujourd'hui à des situations où des personnes qui ont des problèmes de santé, qui sont en situation de handicap, ils sont pas prioritaires sur l'hébergement. Et rien ne fonctionne après. Donc tout ce qui est procédure, DAO, etc. Souvent, ça marche pas. Donc il y a des refus que nous-mêmes, enfin, en tant que travailleurs sociaux, on ne comprend pas. Donc les personnes sont un peu face à des situations de blocage complet et où souvent il n'y a pas d'issue.
Et du coup, ben justement, le collectif, vous pouvez nous dire ben, pourquoi et comment vous vous êtes créé?
Bon, le collectif d'hébergement, ça fait au moins un an. Le but du collectif d'hébergement, c'est pour partager en solidarité de toute personne. Au lieu de rester seule, tu n'as pas d'hébergement, tu es sans abri, tu as des enfants, tu es malade. Au lieu de rester seule à l'arrêt, c'est pour cela qu'on avait l'idée de créer un collectif d'hébergement pour partager nos vies personnelles, nos expériences personnelles. C'est un peu ça ce que je voulais dire.
Le collectif a été créé par nous, les membres de CASE de santé. On est venu vers eux, on a créé le collectif. Et maintenant, le collectif, ils nous aident, ils nous mettent sur le bon chemin, ils nous disent comment est-ce que on doit faire les activités, parce que à chaque fois on fait des activités, on fait des réunions chaque vendredi à partir de 10h. On fait des réunions, on parle entre nous de nos activités que l'on doit faire. Nos activités, le mois dernier, le 10 mars, on a fait ici au Palais de Justice, on a fait des manifestations là-bas pour qu'on puisse être entendu très bien. Après ça aussi, il y a des activités aussi que l'on doit faire. On fait les repas aussi. Après, on discute de ça aussi. Comment est-ce qu'on doit faire les menus et tout dans le collectif les vendredis, chaque vendredi. Mmh. C'est comme ça que ça se passe là-bas.
Mmh. Et du coup, comment vous fonctionnez? Vous êtes combien dans le collectif? Comment ça fonctionne? Si vous pouvez nous dire deux, trois mots là-dessus.
Nous sommes nombreux.
Ouais, j'imagine.
Donc, il y a des cas particuliers. Chaque personne... Il a son problème, donc nous sommes nombreux.
Ouais. Nous sommes beaucoup nombreux. Il y a des gens malades, il y a des gens aussi qui viennent avec les béquilles, il y a des gens qui viennent avec les enfants, il y a beaucoup de sortes de personnes qui vont là-bas. Mmh. Ouais.
Ouais. Et là, tu disais que vous, tous les vendredis, vous retrouvez?
Oui.
Et vous avez une réunion,
Exactement, oui.
C'est le vendredi, les réunions?
Le vendredi à 10h.
Oui. Et donc, c'est à la case de santé, je suppose. Oui. Parce que là, ça m'amène à la question suivante.
Oui. On a une salle bien aménagée, là où on fait les réunions, les tables et tout. On se pose là-bas. Après, tout le monde vient, on parle entre nous. On se dit des choses qui peuvent nous aider, nous, pour que notre organisation puisse aussi aller de l'avant.
Et là, le vendredi, vous vous racontez des choses que vous vivez. Et vous essayez de voir ce que vous pouvez faire pour...
Oui. Le prochain, dans nos activités.
D'accord. Mais entre vous, vous essayez de vous entraider entre vous, c'est ça? Vous apportez de... Parce que c'est difficile de ne pas avoir de logement, par exemple, et tout. Donc, comment vous faites-vous? Vous êtes juste un collectif pour vous prendre soin des uns des autres? où vous avez faire des choses pour un peu lutter.
Oui, on fait le tout.
Les deux.
Oui. Oui, on fait le tout parce que nous, on est entre nous, on n'a pas assez de moyens. Nous, on n'a pas, moi qui vous parle, je n'ai pas d'hébergement. Moi, je suis dans la rue. Voilà, il y a tous ceux qui sont là-bas, personne n'a un hébergement. Il y a des gens qui habitent dans les rues, qui sont dans les... Ils n'ont pas où aller. Mm-hmm. Tu vois, vous voyez ici, même dans les ponts, oui, dans la ville, vous voyez les gens avec les tentes et tout. Voilà, ils vivent mal. Voilà, ils vivent très mal, vous n'avez pas de vie. Parfois même, on a des difficultés, même à parler avec les gens. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu es dehors, on te prend pour quelqu'un de mauvais. Il y a tout ça. On souffre quand même quand on est dehors.
Ah oui, complètement. Ah oui. Et du coup, quel est le lien entre le collectif et la case de santé? Parce qu'il y a une raison pourquoi on vous a invité en même temps.
Bon, les liens entre les collectifs et la carte de santé, c'est les travailleurs sociaux qui nous accompagnent. Parce que nous-mêmes, comme nous sommes beaucoup, avec des gens, avec des pathologies différentes, nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous en sortir. Donc, c'est pour cela qu'on s'est réunis avec les travailleurs sociaux pour nous accompagner. Parce que pour trouver une bonne solution.
Et donc, il y a des travailleurs et des travailleuses sociaux et sociales tous les vendredis avec vous, c'est ça?
Oui, tous les vendredis à 10h et 12h, nous sommes là avec nos travailleurs sociaux.
Et c'est ouvert ce vendredi-là? Est-ce qu'il y a d'autres gens? Il y a beaucoup de monde déjà, je sais. Mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui peuvent rejoindre ce collectif ou plutôt là, pour l'instant, vous ne pouvez pas prendre plus de monde?
Non, le porte est ouvert pour tout le monde. Pour tout le monde qui a des situations irrégulières, qui a une pathologie différente, ils peuvent venir nous assister, ils peuvent venir intégrer dans le groupe. Nous sommes là pour ça, pour partager solidairement.
Peut-être ce qu'on apporte un peu, nous, les travailleurs sociaux, c'est un peu le réseau. Parce que vous avez l'expérience et savoir quoi faire. Et nous, on va apporter... par exemple, on a proposé à des avocates de venir pour expliquer c'est quoi les procédures qu'on peut faire quand on est à la rue pour essayer de convaincre le tribunal de forcer la préfecture à donner une place d'hébergement. On a fait intervenir le DAL, le droit au logement, pour expliquer d'autres types de procédures. Voilà, on essaye de faire jouer le réseau de la case de santé et le réseau large pour en fonction des demandes et des envies des personnes du collectif.
Effectivement, du moment où les situations individuelles bloquent, on n'arrive plus à trouver de répondre aux demandes. Des personnes demandent de partager ça, de visibiliser ça, et c'est là où à la case de santé on a ouvert cet espace pour que les personnes puissent visibiliser par eux-mêmes cette situation parce qu'ils sont plus légitimes de le faire, mais aussi leur voix, elle compte beaucoup sur la question de l'hébergement notamment. Ça aussi provoque beaucoup de choses, beaucoup de conséquences. On parle de personnes qui ont des problèmes de santé pour la plupart, un problème d'handicap pour certains. Et comme le disait Mohamed, ils sont à la rue, donc il y a des maladies aussi qui arrivent, qui n'étaient pas là avant, ou des maladies qui s'aggravent, ou un handicap qui s'aggrave. Donc à un moment, les personnes, ils ont envie de aussi partager leur expérience, de s'exprimer, et se faire entendre, et aussi de trouver des stratégies. Des fois, elles sont plus efficaces que les travailleurs sociaux. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est trouver des solutions dans le système, mais les collectifs peuvent aussi trouver des stratégies de soutien, de solidarité, avec les moyens qu'ils ont. Donc c'est plus efficace souvent. Et aussi le fait que nous on soit présents, comme le dit Rémi, on est des outils, on n'est que des passerelles pour permettre ça. Il y a aussi un médiateur en santé qui est présent aussi, qui permet de faciliter la parole, de préserver en tout cas le collectif, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont très très vulnérables, et donc le fait qu'ils soient là, c'est aussi leur donner un moment et un espace un peu safe pour qu'ils puissent s'exprimer sans discrimination, sans jugement, sans... Voilà.
Peut-être quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant que travailleurs sociaux, pour l'accompagnement des personnes qui sont malades et qui n'ont pas d'hébergement, normalement, il y a des structures adaptées qui s'appellent les lits halte soins santé, les appartements de coordination thérapeutique, les lits d'accueil médicalisés. Et ces structures, c'est des listes d'attente très très longues. C'est-à-dire que voilà, une personne qui a une pathologie, aujourd'hui, on sait qu'on va faire un dossier, mais on sait qu'il n'y a aucune chance qu'elle ait une place avant plus d'un an. Et du coup, la question, c'est que voilà, comment on fait, nous, notre travail d'accompagnement normal, et comment on peut permettre à des personnes de modifier le système pour qu'il y ait plus de place, pour qu'il y ait un accueil.
En complément, ce système aussi médicalise trop les personnes. Déjà, ils sont... déjà avec des problèmes de santé. Donc en ce moment, par exemple, tout passe par des certificats. On entend parler des certificats partout. Pour avoir un hébergement, il faut un certificat. Pour avoir un titre de séjour, il faut un certificat. Tout est médicalisé. Donc le fait de s'organiser en collectif, ça permet aussi de sortir de ça et de dire simplement que l'hébergement, c'est un droit, on n'a pas besoin de détailler nos pathologies et voilà, lever des secrets quand on n'a pas envie de dire, ou on n'a pas envie de dévoiler. Et que rappeler à chaque fois qu'on parle de questions, enfin, c'est pas un privilège, c'est un droit. Ça, c'est important de le rappeler à chaque fois.
Tout à fait. Bon, on va faire une petite pause musicale là pour respirer un peu. Donc, ça va être Amel Bent avec Ma philosophie.
Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le point levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Différence, toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing encore plus haut. Comme toutes ces filles, qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer le cœur. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire, le poing levé vers l'avenir. Lever la tête, lever le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Oh,
Merci Amel pour ce message d'espoir perpétuel, toujours le point levé. il est déjà 35, donc ça avance plutôt vite, mais on va plutôt parler de qu'est-ce que est le collectif et la case de santé, quelles difficultés, blocages vous en traversez ou vous traversez encore. Est-ce qu'il y a des choses difficiles et des choses un peu compliquées qui ont eu lieu ou qui arrivent là? Je ne sais pas qui veut commencer.
Pour la case de santé, la difficulté, c'était la reconnaissance un peu du système qui a pris du temps quand même par rapport au projet innovant qui a fait ses preuves à travers le temps, que c'est le modèle qu'il faut suivre pour avoir une meilleure santé, une meilleure prise en charge des personnes. Et on a eu des petites victoires comme ça avec différents collectifs, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait aussi des programmes à la case de santé comme la lutte des Shibani autour de leurs droits. Donc il y a eu pas mal de mobilisation autour de cette question. Il y a eu des moments conviviaux, il y avait des moments de joie, de tristesse aussi. Parce que c'est des personnes qui sont vieillissantes et qui partent dans des conditions indignes, souvent, alors qu'ils ont travaillé toute leur vie, qui ont permis le développement des infrastructures en France, etc. Et il y a des moments aussi, des petites victoires. La grande satisfaction, c'est de partager des choses ensemble. Ça fait un effet victoire, des fois, parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. On se bat avec d'autres personnes. Et donc, il y a eu tout l'épisode où la case de santé, c'était dans une lutte pour continuer d'exister en 2013-2014, où on est passé sur pas mal de financements qui ont été mis pérennes, en tout cas des financements qui ont permis en tout cas de la case de santé continuer d'exercer jusque-là. Et à partir de 2021, on était dans une expérimentation pour 5 ans avec d'autres structures, ce qu'on appelait SECPA, ce qui a fait un peu le tour il y a quelques mois dans le réseau par rapport à difficultés de financement, parce que l'État avait décidé de couper les financements en avril et de mettre fin à cette expérimentation, sauf que c'était question de que ça soit dans le droit commun à partir d'avril. Donc suite à ça, il y a eu beaucoup de mobilisation, que ce soit à la case de santé, que ce soit dans les autres structures, on est 26, où ça a permis à la fin de prolonger, de reconduire les financements jusqu'à fin d'année. Et après, on verra si ça va être vraiment dans le droit commun ou pas. Donc c'est la question qui va être de 2027, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais on considère quand même que c'est une victoire, parce que c'est la victoire des usagers qui vont pouvoir continuer à bénéficier d'un système de santé adapté, de sortir de toute cette prise en charge classique de la santé où on voit juste la personne pour avoir une ordonnance et de ne pas le voir de façon globale.
Peut-être pour compléter sur l'actualité de 2026, là, moi, je pense qu'on est vraiment dans une phase où on a une reconnaissance institutionnelle, que ce soit des partenaires, de l'hôpital, de l'ARS, de la CPM. J'ai l'impression que ce soit la case de santé ou les autres centres de santé communautaires, toutes les évaluations de SACPA montrent que cette forme de santé, au final, elle est très bénéfique pour les personnes. Elle est même bénéfique pour la société en tant que telle, parce que au lieu de on peut prendre un exemple, au lieu d'avoir une personne qui n'a pas d'hébergement, qui se retrouve à la rue et qui du coup à cause de sa maladie elle va déclencher une crise grave de sa maladie, elle va se retrouver aux urgences et tous les soins pendant un mois d'hôpital qu'on aurait pu déjà éviter pour la personne, qui c'est très traumatisant, on a des situations comme ça, et au lieu de ça, avoir de la prise en charge dans la santé participative communautaire, ça va être d'éviter des situations comme ça pour la personne et aussi pour la société. Et du coup, on est dans cette phase où on est reconnu par les institutions. Il manque la reconnaissance de l'État. Elle était bien partie avec SACPA. Et là, on est dans une phase où je pense qu'il va falloir continuer à se battre jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, c'est ce qu'on s'est dit pour essayer de défendre le modèle et de voilà que ça rentre dans le droit commun et que ça soit pas un modèle qui reste à ces 26 structures. Bah, c'est ça l'idée. C'est l'idée qui est des centres de santé tels que le nôtre un peu partout sur le territoire pour répondre aux besoins et pour faire face aux inégalités sociales de santé qui elles croissent de plus en plus. Les inégalités se creusent en France. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement? Nous, on apporte une petite réponse. Et en tout cas, voilà, on espère que ça va continuer.
Effectivement, les centres de santé, maisons de santé qui sont dans cette expérimentation et de façon générale, leur permettre le premier recours à des personnes, ça permet effectivement d'éviter que leur situation s'aggrave et aller solliciter tout ce qui est urgence, deuxième recours, etc. Et aussi, on est plus proche des personnes parce que on est, que ça soit dans les ruralités ou dans les villes, plus proche des personnes, de leur réalité, sur le territoire, de leur le fait qu'il y a des équipes pluridisciplinaires et des professionnels pairs aussi, la médiation santé par exemple, qui est au centre de la prise en charge de la case de santé et des autres centres de santé communautaires, et la réponse à la santé, c'est la réponse pour améliorer la santé des personnes parce que ils sont l'interface entre le système et les professionnels. Donc effectivement, nous on reste toujours dans cette logique que il faut développer les centres de santé, maisons de santé, et que cette expérimentation passe à quelque chose de plus pérenne, plus reconnu.
Et le collectif, est-ce que vous avez été traversé par des choses difficiles ou bien, sans parler de des conditions de vie que vous avez dans le collectif et tout ça, hein, bien entendu, mais en tant que collectif, est-ce que vous avez été traversé par des choses compliquées ou des blocages ou...
Oui, effectivement, dans le collectif d'hébergement, on a beaucoup de difficultés pour trouver l'hébergement. Surtout, c'est ça, c'est la première position. Dans la loi, on connaît bien que l'hébergement est un droit. Mais pour être hébergé, il y a des conditions, les 115 s'imposent. Donc là, moi, c'est une difficulté totale. Donc quand tu appelles les 115, ils posent bien des questions. Ils te demandent est-ce que tu as un titre de séjour. Mais quand quelqu'un est malade, comment il peut avoir un titre de séjour? Donc pour être hébergé ici à Toulouse, il faut avoir un titre de séjour. Or, que c'est une peine normale. Là, vraiment, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, il y a le pathologie. Donc, si quelqu'un qui est malade, il n'a pas d'hébergement, donc leur maladie, ça va toujours aggraver, ça va toujours dégrader. Donc, il y a des maladies, quand tu es malade, tu prends le médicament, tu n'arrives même pas à te lever, il faut que tu te reposes. Mais quand tu es dehors, ta situation, ça va toujours dégrader. Il y a des familles qui sont dehors. Ouais, c'est les difficultés vraiment que nous traversons dans le collectif d'hébergement. Parce que nous sommes nombreux, nous avons des histoires. Nous sommes nombreux, on traverse beaucoup de difficultés d'hébergement. Donc c'est ça vraiment la première occupation. Dans l'autre, le rassemblement qu'on avait organisé, on avait dénoncé la préfecture concernant l'hébergement seulement. Il y a beaucoup. Sur l'argent qu'on paye, on le dépense pour les hôtels. Sur l'argent-là, on donne l'hébergement pour tout le monde au lieu de loger des personnes qui sont en situation handicap, qui sont malades, des familles avec des enfants dans l'hôtel. Donc, c'est vraiment très difficulté que nous rencontrons à la case de santé et dans le collectif hébergement. C'est ça pour moi.
Dans le collectif, on a des difficultés. Vous imaginez les personnes malades. Une fois vous êtes malade, comment est-ce que vous êtes dehors, vous avez des difficultés. Parfois même, il y a des gens dehors qui peuvent passer toute la journée sans manger. Tu es malade, tu souffres de quelque chose, comment peux-tu te déplacer? Tu auras du mal. Voilà, c'est des difficultés comme ça. Il y a des gens aussi qui sont dans les collectifs. Ils se déplacent et ils vont dans les... Ici, île de Ramier, pour aller manger. Là-bas, nous, on part là-bas pour manger. Parfois, on mange. Après avoir fini de manger, tu viens, tu restes comme ça. Et après, c'est fini. Tu attends encore le lendemain. Tu vas là-bas pour manger. Parce que là où moi, je suis, là-bas, c'est un peu loin. Je ne peux pas aller de l'autre côté pour manger là-bas. Vous voyez? Ouais, on a des difficultés. Le problème aussi, le problème de transport. On a tellement de problèmes. Le problème de transport... le ticket de bus, une personne qui ne travaille pas, qui est en situation irrégulière, comment est-ce que lui, il peut payer 20 euros pour payer un ticket? Il ne peut pas. Voilà. C'est pourquoi le collectif, la case de santé, il nous aide dans nos activités pour donner un peu, pour nous aider à avoir les prix de transport quand même les mois. Ils nous donnent 20 euros pour payer nos tickets. Ils nous font ça. Ça, vraiment, c'est à saluer. Vraiment, ils sont bien. Et nous, on n'a pas de transport, on n'a rien, on n'a pas de domicile. Parfois, on est dehors. Vous vous imaginez le froid. Hein? Parfois, tu te réveilles la nuit sans, tu as sommeil, mais le froid te tape tellement. Tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas continuer à dormir. Tu te réveilles, tu veux dormir, tu ne peux pas. Tu peux rester comme ça jusqu'à la nuit encore. Parce que pendant la journée, vous voyez vous-même, quand vous marchez au long des ponts, dans les ponts, vous voyez les sans-abri, ils dorment. Tu as envie de dormir la nuit, tu ne peux pas dormir parce qu'il fait tellement froid que tu ne peux pas dormir la nuit. Tu dors quand il y a le soleil. Là, il y a un peu, c'est devenu un peu chaud. Voilà, là-bas, tu peux dormir. C'est pourquoi vous voyez les gens dehors, ils dorment les sans-abri. À l'hiver, ils dorment à partir de 10h, 12h, 13h. Il y en a 14h, 15h, 16h. Parce que le temps maintenant, c'est adapté. Tu peux dormir comme ça. Mais si tu te dis, tu vas dormir la nuit, tu ne peux pas, le froid, ça te tape tellement. Il y en a, ils peuvent, ils sortent, parce que moi, avec qui je suis, on sort, on ramasse, quand on a froid, on ne sait pas quoi faire, on ramasse les mégots de cigarettes, on le fume pour se
réchauffer.
Se réchauffer. Vous vous imaginez, vous prenez des maladies par-ci, par-là.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en plus le froid rajoute des maladies sur les déjà les maladies plus le manque de le fait de pas manger ou tout ça rajoute en plus les conditions de vie dans la rue sont
c'est tellement difficile terrible. C'est tellement difficile, mais grâce à la case de santé ils nous aident dans nos activités, ils nous aident aussi à aller vers les personnes pour que l'État puisse nous aider. Eux, ils nous aident, ils nous donnent des coups de pouce pour qu'on puisse nous aider à avoir les appartements, pour qu'on puisse avoir quelque part où dormir. Même si c'est se coucher, et le matin, tu sors.
Oui, mais au moins, c'est au chaud.
Oui, au chaud. On veut, c'est tout ce qu'on veut, nous.
Et vous y arrivez? Il y en a, ça marche un peu, vous arrivez à accompagner du monde au collectif? C'est un peu des petites victoires, ça, quand même, d'arriver à loger, accueillir des personnes qui soient logées.
Eh ben, en ce moment, je ne sais pas si on peut parler de victoire sur la question de l'hébergement, notamment, parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est que les pouvoirs publics jouent avec la météo, que ce soit avec les chaleurs très hautes ou très basses, ou peu importe. À chaque fois, ils vont nous faire des déclarations qui sont indignes, enfin des demandes des personnes, ils ont besoin que ça, quelle que soit la météo en vrai, ils ont besoin d'un toit, ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin de vivre dignement, tout simplement, et c'est un droit. Nous, on est là que pour justement trouver avec les personnes de ramener des outils. Enfin, comme Mohamed tout à l'heure parlait de la question, par exemple, des transports, c'est une vraie question. C'est un vrai problème, en vrai, même si les personnes ont tellement de problèmes que ça, des fois, ça paraît juste un détail, mais c'est un vrai problème parce que les personnes sans ressources, ils ne peuvent pas se déplacer comme pour aller voir leur médecin, pour aller au quotidien faire leurs démarches administratives, etc. Donc, c'est coûteux, c'est pas gratuit, il n'y a pas d'aide. Donc, ils se sont organisés pour justement trouver un peu d'argent pour se soutenir, pour payer ces tickets de transport. Et nous, on est là juste pour trouver des espaces, des lieux, des outils pour justement permettre ça, ni plus ni moins.
Oui, pour peut-être un mot sur ça, c'est qu'à Toulouse, par exemple, il y a des personnes qui ont un titre de séjour étranger malade, qui ne sont pas en capacité de travailler et payent 58 euros par mois de transport. Voilà, donc c'est le maximum. Dans d'autres villes, la majorité des métropoles, ils paieraient soit 0, soit 3,50 euros. Que ce soit à Lille, à Strasbourg, à Lyon, à Bordeaux. On est dans une situation où les transports sont très très chers à Toulouse et c'est un vrai problème. Du coup, ce n'est pas nous qui donnons 20 euros, c'est eux qui font à manger et qu'avec l'argent avec lequel ils vendent le repas, ils font ces repas de solidarité et ils se les redistribuent entre eux. Nous, on est là pour trouver les lieux où faire à manger, on est là pour faire passerelle, mais voilà.
Oui, je me doutais que ce n'était pas la case de santé qui payait des tickets de transport à tout le monde. C'est bien de le préciser. Ouais. Mais ça veut dire que vous organisez des soirées de soutien pour repas, récolter des sous.
Oui, on fait des repas.
Moi, j'avais mangé un couscous à la chapelle, qui était très bon. Je tiens à le dire quand même.
Même le mois prochain, il y a un repas aussi qu'on va mettre en place. On est sur les préparatifs. D'accord. Comment est-ce que il faut faire, on va faire le repas, on a déjà écrit les recettes et tout. Comment on va préparer, tout est en place. C'est qu'on attend le jour pour aller à la chapelle et
ce faire sera à la chapelle repas, encore.
Justement.
Et ce sera quand? Vous avez une date pour ce repas?
Oh, le 18 mai.
Le 18 mai.
Ouais. Je vais compléter un peu. Souvent, on le fait le repas solidaire après un mois ou deux mois. Ça nous permet de récolter l'argent pour distribuer à toute personne qui est membre des collectifs hébergements. Nos assistants sociaux, ils sont là pour nous aider à trouver l'endroit. Mais nous-mêmes, c'est nous qui organisons.
Qui cuisiner,
repas. Oui,
qui
distribuer
le repas après.
Le repas.
Ouais. Oui. Tout, quoi.
C'est ça.
Nous, c'est le dans le collectif. Qui fait tout.
Tout, oui. Ouais. D'accord.
On fait le marché. Après le marché, on va à la chapelle. Il y a des gens et on prépare. Nous, on prépare. Après ça, on distribue, on donne aux gens. Après, c'est ça.
Oui, j'ai mangé un très bon couscous en février.
Et voilà.
Et c'était vous, c'était le collectif qui l'avait préparé. Et bien justement, on arrive sur la fin de l'émission. Il est presque moins 5. Nous, on finit à 20h. Mais justement, est-ce qu'il y a les suites? Est-ce que là, il y a le 18 mai, il y a un repas à la chapelle. J'imagine c'est le soir. Voilà.
Oui, nous organisons une repas solidaire le 18 mai. Nous invitons à tout le monde qui est disponible, laisse une paix pour venir nous soutenir dans une repas solidaire que nous organisons le 18 mai. Mm-hmm. La porte est ouverte à tout le monde.
Ouais.
Dans la chapelle.
Dans la chapelle, oui.
Il y aura la musique, on va bien danser. Et...
Ah oui, c'est festif en
plus. Oui, c'est ça.
Ok.
Et c'est entre 19h, on a dit 19h jusqu'à 22h.
21h le service du repas et 22h la soirée.
Ouais. La petite boum jusqu'à 22h, c'est ça.
Voilà.
C'est un lundi, non? C'est la relâche?
C'est un lundi, oui, ouais. Tout à fait.
Donc ce sera peut-être sans doute pendant une relâche. On est d'accord.
C'est ça.
Ok. Et la case, il y a des suites, des rendez-vous?
Ça va... On est dans une phase de discussion au niveau national avec les autres centres de santé et les députés. Il y a des phases d'interpellation des députés en ce moment pour essayer faire rentrer du coup le dispositif SECPA qui finance en grande partie la case de santé et les autres centres de santé dans le droit commun. Et donc là, c'est jusqu'à juin, on est dans une phase de discussion. Sûrement, on aura des actualités après cette phase de discussion. On reviendra vers tout le monde sur notre site internet, nos réseaux. Il ne faut pas hésiter à regarder cette actualité en juin parce qu'il y en aura sûrement des nouvelles.
Et vous, le collectif, vous avez un réseau social, un truc qui, pour communiquer, ou plutôt on regarde sur le site ou les réseaux de la case?
Non, nous avons créé un groupe de collectifs d'hébergement. C'est là que toutes les informations, toute personne, tout membre peut...
Et c'est où qu'on trouve ça?
C'est un groupe WhatsApp.
WhatsApp, ah oui, non, mais c'est WhatsApp, c'est
voilà,
un groupe fermé.
Un groupe WhatsApp pour nous, les collectifs. Mais si vous voulez trouver quelque chose sur le collectif, vous pouvez aller au site
de
la case de santé.
Ouais. Oui, parce qu'on ne va pas donner le numéro du WhatsApp
y a pas
du collectif à la radio. Ça risque d'être compliqué.
Ok,
et ben voilà, on arrive sur la fin. Est-ce que vous avez un petit mot de fin à dire, quelque chose que vous voulez dire?
Juste pour compléter, avant que je laisse la parole au collectif, pour la case de santé, on est sur un projet de déploiement, justement,
à Toulouse.
L'objectif, c'est de partir de Arnaud-Bernard vers un quartier prioritaire de la ville pour justement concrétiser le projet initial qui est un centre de santé communautaire dans un quartier. Donc, ça fait partie du projet.
Comme Arnaud-Bernard change,
c'est ça.
Mais avec l'idée de garder un lieu en centre-ville, le pôle santé droit, pour garder un lieu accessible à tout le monde qui a besoin d'accès à la santé, accès à ses droits. Voilà, d'essayer d'avoir les deux projets, le centre de santé communautaire dans un quartier prioritaire de la ville et le pôle santé droit accessible en centre-ville.
Ok. Un mot? Un petit mot pour la fin?
Oui, le mot de la fin, nous invitons tous au notre rendez-vous de 18 mai à 19h au Chapelle. Venez nombreux et nombreuses.
Vous avez le menu pour faire de la pub, ça veut dire? Peut-être que vous voulez
pas le dire. Il y aura le riz avec la soupe et puis avec un dessert, une bonne dessert.
Ah, il y a le dessert aussi.
Pas déçu.
Ouais. Je me doute qu'on sera pas déçu.
Ouais.
Un mot de la fin aussi, la case? Ouais. Non?
Eh bien, je pense que la lutte continue pour l'hébergement. J'espère que les pouvoirs publics puissent entendre les voix des personnes et ouvrir plus de places d'hébergement plus dignes pour ces personnes-là et qu'on ne vit pas chaque année, comme chaque année, par exemple les étés, où on a des familles qui sortent des hôtels, qui mettent fin aux prises en charge. Déjà là, c'est pas top. Ils sont en train de signer tous les jours pour acter leur présence. Ils sont sous pression. Donc, faut préserver la santé mentale aussi. Ils sont déjà assez fatigués, épuisés, malades. Donc, il faut préserver la santé mentale de ces personnes. Et donc, j'espère que les personnes puissent avoir de l'hébergement, un logement digne, pour un pays comme la France.
On est d'accord. Merci beaucoup à vous pour cette heure passée ensemble. Vraiment, c'était très intéressant et très... merci pour vos témoignages, beaucoup, vraiment.
Merci
beaucoup. Moi, pour finir, je vais, comme on fait à chaque fois, on fait un petit agenda à venir. Donc, je vais redire pour les 18 mai, vous inquiétez pas. Là, il y a l'anniversaire ce week-end. Il y a le 25 avril, il y a l'anniversaire des 10 ans du collectif autonomique, un collectif de mineurs isolés. Donc, ça fait déjà 10 ans. Voilà, ça rejoint un peu tout ça. Donc, il y a toute la journée. Et le matin, il y a un tournoi de foot organisé par les jeunes entre jeunes. Ça promet, parce qu'ils s'entraînent depuis quelques mois. Au stade des Argoulets, et l'après-midi, c'est à la chapelle. Ensuite, je peux continuer vite fait le petit agenda. Il y a la prochaine assemblée contre la guerre et la militarisation qui aura lieu le 30 avril à 18h à l'Impasse. Et toujours le 30 avril, de 18h à 22h, il y a la soirée pizza mensuelle au Motor qui organise ce mois-ci pour... c'est des soirées pizza de soutien. Un peu comme ce que vous allez faire en mai. Mais là, ce sera pour l'association Dreams, c'est une asso qui s'organise aussi autour du soin communautaire pour les personnes LGBT migrantes et en précarité à Toulouse. Et il y aura le 1er mai après qui va enchaîner. Donc le rendez-vous du 1er mai, c'est pour la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses. Alors je crois qu'elle est fixée à 10h30 à Esquirol, si je ne me trompe pas. Et le prochain rendez-vous, le lundi 18 mai, à partir de 19h, à la chapelle, pour venir manger, rencontrer et manger les repas préparés par le collectif hébergement. Et ça, c'est aussi une façon aussi de vous rencontrer, discuter avec vous, voir aussi vos besoins. Et il y a quand même un petit moment convivial après, un peu musique, boom, de 21h à 22h. Donc je vous invite fortement à venir le 18 mai à la chapelle. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Bisous.
La case de santé est mobilisée. Revenez, va rien lâcher. On veut ces cas, il s'agit de notre santé. Revenez-moi nous financer.
Éteignez les lumières, je viens chanter mes pogos sur les rails de l'enfer, l'océan est Congo. Bien avant ma mort, mes rimes et mes vers me dévorent. J'enferme le monde dans mon corps jusqu'à ce que les mots me débordent. Transforme la chair en verbe, la douleur en art, l'ombre en lumière. J'ai traversé les mers, j'en ai pleuré des rivières. Vous finirez seuls et vaincus dans vos délires de sang impur. Et la haine que vos bouches écument n'aura plus prise sur nos vécus. Ronronne l'histoire et elle cale et les cales enchaînées dans bateaux faits d'un bois, faits d'un arbre où l'on pend d'étranges fruits distillés et broyés. Des cadavres empilés, des pelletés de charniers. Regardez les exodes, papillons volent, vogue. Regardez devant l'homme comment Dieu se dérobe. Comme il pleure en tornade nos ruines et nos guerres. Comme il pleure chaque soir un soleil incendiaire. Je peux plus respirer, leurs genoux sur mon cou, leur permis de tuer. Le réel est violent comme une jungle à Calais. Un Congo, océan, tant d'offenses à laver. J'essuie les crachats, j'arrache des murs de France, les sourires banania. Et nos enfants qui viennent seront dignes et debout. Debout, dignes, dignes et debout. Je connais les entailles, les encoches de nos cœurs. Si leurs ténèbres m'assaillent, j'irai chanter mes lueurs. Invincible est notre ardeur, l'éclat de nos vies entêtées. Invincible est notre ardeur, éblouira vos en dedans. Invincible est notre ardeur, l'éclat de nos vies entêtées. Invincible est notre ardeur, éblouira vos en dedans.